BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Cette semaine, on va se projeter dans le futur. Futur des métiers, futur de la formation, des compétences, futur des entretiens d'embauche aussi. Une émission résolument tournée vers l'avenir avec l'homme qui réfléchit à l'avenir du management. C'est Alexandre Pachulski, cofondateur de Talentsoft. On parlera ensuite des compétences clés auxquelles se former demain avec Yann Petit, CEO de Unlo. Laissez tomber les tableaux Excel, formez-vous plutôt à l'animation de la réunion à distance. Et puis si les tests de personnalités vous font peur, moi c'est mon cas, j'ai horreur de ça. Un des plus gros cabinets viendra vous en parler, ça sera avec David Bernard d'Assess First. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Alexandre Pachulski. Bonjour.
Bonjour.
Cofondateur de Talentsoft. C'est entre autres un logiciel qui permet de faire des évaluations. Ça fait partie du Next 40, une des pépites de la tech française. Vous avez écrit Unique et puis Génération IA et d'autres livres. Vous avez écrit combien de livres?
J'en ai écrit 4, mais c'est les deux qui s'adressent plutôt à un plus grand public, on va dire.
C'est pas mal quand même pour un directeur de boîte. Vous êtes un des évangélistes de l'intelligence artificielle dans le monde réel, si je peux vous mettre dans une case. Justement, les cases, c'est notre sujet. Vous plaidez pour la singularité, l'éclosion du talent personnel, mais vous dites que l'intelligence artificielle, elle permet l'individualisation. Mais quand moi je vais sur Netflix ou que je suis sur Twitter ou que j'utilise des algorithmes, je suis plutôt dans ma petite case de pensée, hein. Comment l'intelligence artificielle peut m'aider, moi, à savoir quelles sont mes différences avec les autres et à les valoriser ?
En deux mots, je pense que l'éducation aujourd'hui, sans là, spécifiquement la critiquer, mais telle qu'elle est bâtie, aide assez peu les gens finalement à se connaître. On ne sait pas quelles sont nos compétences, on a parfois du mal à connaître nos aspirations. Et l'idée qu'il y a derrière Unique et cette notion de singularité, c'est que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, les sujets auxquels on s'intéresse parlent de nous. Et si des algorithmes pouvaient nous offrir une forme de miroir de tous ces sujets qui nous intéressent, des activités qui sont les nôtres, des feedbacks que nous rendent les individus, finalement, elles pourraient peut-être nous permettre d'aller au-delà de nos propres biais, de nos manques de confiance, des fameux syndromes de l'imposteur, de « je suis pas bon en maths », et montrer que finalement, on a peut-être des possibilités, des formes d'intelligence qui répondent simplement pas au parcours un peu normatif de l'éducation, des études, du travail, mais qu'on pourrait largement exprimer. Et je crois à une technologie qui pourrait servir de miroir pour peu qu'on considère vraiment les gens comme des citoyens avec des singularités et que l'enjeu, c'est d'aller chercher et pas justement les faire entrer dans les cases. Donc ça pose la question de l'intention.
Mais on dirait que c'est un mélange entre un psy et un bilan de compétences.
C'est pas faux. Dans Génération IA, je fais l'analogie avec tous les films où il y a des coachs, des mentors à la Karate Kid et autres Will Hunting, en disant que finalement ces films montrent quoi ? Une forme de personne qui va permettre à un autre de croire en lui, de découvrir ses possibilités, et que très souvent, le talent, c'est comme une forme de matière brute qui est coincée dans un carcan qui ne demande qu'un peu à être cassée pour que tout d'un coup ça se libère. Et ça, ça s'appelle la confiance. Et
mais vous êtes persuadé que tout le monde a un talent ? C'est-à-dire que c'est une vraie question, parce que les gens se disent, attends, on me dit partout dans les recrutements, je cherche des talents, mais moi j'ai rien, j'ai même pas une passion à vendre.
J'y crois pas du tout. Je crois qu'il y a des densités, par exemple, il y a des talents au basket, et puis il y a des Michael Jordan. C'est-à-dire que c'est comme une jauge. Tout le monde n'a pas sa jauge remplie de la même façon, et j'ai pas un discours démago du type que tout le monde peut faire des choses incroyables. Ça, j'y crois assez peu. Par contre, je crois que profondément, sans tomber dans la démagogie, tout le monde est une forme de pièce d'un puzzle, et le talent, c'est la capacité à mettre sa pièce au profit du bien commun. Et parfois, c'est pas énorme, c'est pas spectaculaire, mais c'est quelque chose dont on a besoin. J'ai un exemple qui est toujours le même. Je pense à une personne dans une équipe qui n'est pas le plus grand développeur informatique de la Terre, qui ne sera jamais un grand manager, mais il sait créer du lien. Et on sait à quel point en ce moment c'est utile. Ben ça, ce n'est pas un talent qu'on a détecté dans le recrutement. Ce n'est pas un talent que forcément on lui restituera via un entretien X ou Y. Et pourtant, son équipe l'apprécie pour ça, sans qu'il fasse des éclats en termes de performance. Et bien ça, je suis certain qu'on peut le détecter, mais que les gens ne vont pas forcément regarder ça aujourd'hui. Donc en fait, il faut ouvrir...
C'est un boulot de manager, hein, d'identifier...
C'est pour ça que moi, je crois à une augmentation, un enrichissement de nos pratiques, et que l'IA, c'est comme un camarade, comme un collègue qui vient vous apporter un regard un peu différent et compléter des manques. Et je suis d'accord que dans l'idéal, c'est un travail de manager. Sauf que combien de managers savent justement individualiser les relations Savoir ce que quelqu'un peut apporter par rapport à un autre est plus important. Comment les uns et les autres, encore une fois comme un puzzle, vont s'assembler. C'est comme un manager, ça devrait être un alchimiste. Or, aujourd'hui, à cause de la prise de risque, à cause de la tension qui est la leur et puis de la tension business qu'on leur met, c'est pas des gens qui se voient comme dans un laboratoire en train de faire de la chimie.
C'est
des gens...
Ils essaient plutôt de gratter du chiffre d'affaires. Là.
Et pourtant, je suis convaincu que le chiffre d'affaires, on le trouvera. Alors, le film Le Stratège, je sais pas si vous l'avez vu avec Brad Pitt et Jonah Hill, c'est dans une ligue de baseball. En fait, il y a un jeune qui connaît rien au baseball, qui a lu un livre qui s'appelle Moneyball, et il va aller chercher des joueurs dont personne ne veut parce que ils ne répondent pas aux 5 critères dominants de la Ligue, mais qui, quand on les mettra dans la même équipe les uns avec les autres, vont faire quelque chose d'incroyable. Ce qui ne manque pas d'arriver dans le film, qui est une histoire vraie. Je crois profondément en ça, et ça, les managers, on doit leur apprendre à faire ça et on doit les aider.
Vous utilisez dans votre livre, le nom de votre livre, Génération IA, vous utilisez les films. C'est pour prouver que l'intelligence artificielle, elle est autour de nous et qu'elle est partout, ou c'est pour montrer en fait que tout ça, ce n'est que de la fiction, que parfois l'intelligence artificielle, ça fait peur et que c'est des histoires qu'on se raconte, mais en vrai, ça doit faire beaucoup moins peur que ça.
Sans réponse de Normand, c'est les deux. Parce que le chapitre 4, c'est justement montrer aux gens qu'il n'y a pas à en avoir peur comme avec le mythe du Terminator ou de 2001. On n'y est pas pour l'instant. Mais le fait d'avoir été chercher des films et des séries, d'abord parce que je suis passionné de cinéma, et je trouve que c'est un langage universel dans lequel on peut vraiment expliquer qu'est-ce que l'IA. Parce que l'IA, c'est soit un sujet des GAFA qui ne concerne pas les gens, soit ce sont des films qui font peur et se disent « Oh là là, moi je ne veux pas en entendre parler », soit on se dit « C'est pour les scientifiques, c'est pas pour moi ». Alors que on peut décortiquer beaucoup de films. Je décortique Un jour sans fin, Bohemian Rhapsody, qui ne sont pas des films de science-fiction. Mais dedans, on peut puiser des choses qui vont permettre de comprendre en quoi les données peuvent être biaisées, en quoi les intentions sont importantes, en quoi l'éducation d'une IA va jouer sur son fonctionnement.
Mais la crainte fondamentale, c'est la fin de son propre métier. C'est l'attaque sur les jobs, c'est la compétition de l'intelligence artificielle sur l'intelligence humaine.
Dans un modèle purement capitalistique, où le but, c'est faire plus d'argent en réduisant les coûts, vous avez entièrement raison. Moi, c'est ce que j'appelle l'IA de performance. Et là, la machine sert à remplacer. Mais comme c'est les temps modernes de Chaplin, rien n'a changé. Ce qui doit changer, justement, c'est le modèle de société où on se dit, OK, admettons qu'on doive continuer de croître, il y a une façon de le faire qui ne sera pas au détriment des gens. Moi, je prône une IA de transformation. D'ailleurs, on va enrichir le manager, on vient d'en parler. Et on peut enrichir les gens simplement en leur disant, en fait, effectivement, ça marche pas pour toi, le talent. C'est quoi? C'est la rencontre d'un individu avec une organisation. L'échec de quelqu'un, c'est pas qu'il est pas talentueux, c'est qu'il est peut-être pas au bon endroit. Et il faut essayer de faire ces assemblages. Et là où l'IA est intéressante, c'est qu'on peut vraiment essayer d'imaginer toutes les possibilités et au milieu de toutes ces possibilités, d'aller bien au-delà de notre propre imagination. C'est Truffaut qui disait que la vie a bien plus d'imagination que nous. Mais en fait, l'IA aussi. Simplement, elle doit proposer des choses et les gens, selon un modèle de société un peu différent du nôtre aujourd'hui, doivent se dire « Tiens, pour tel individu, il y a peut-être cette voie-là. » Mais sans changement du modèle de société derrière, je ne pense pas que la technologie va révolutionner ça.
Ça veut dire que concrètement, dans une entreprise, quelqu'un peut ne pas être à sa place et il faut avoir le courage de changer les gens d'équipe, de secteur, de les utiliser à autre chose, de leur proposer autre chose.
Je me permets de le dire parce que sincèrement, à l'échelle de notre petite entreprise, c'est-à-dire 700 personnes. J'ai des gens qui sont là depuis 10 ans, qui ont fait 7 jobs différents. J'ai vu des gens changer de job et s'éteindre, alors que je les avais vus vraiment briller de tout leur feu le poste d'avant. Et j'ai vu l'inverse se réaliser. Donc, je suis absolument... Je ne suis pas certain de grand-chose, mais je suis certain qu'on peut vraiment faire éclore quelqu'un simplement, parfois aussi en le changeant de manager, en le changeant de collègue, en changeant de sujet. Moi, je n'étais pas très bon honnêtement, à l'école, j'étais toujours à 10, jusqu'à arriver à licence maîtrise. Et quand je me suis mis sur le sujet de l'IA, pourquoi j'ai eu mention bien? Pourquoi j'ai eu mention très bien? Je ne suis pas devenu plus smart.
Ça m'a fait pareil avec l'économie. Moi, j'étais nulle. Et après, quand j'ai découvert l'économie, et après, j'ai brillé.
Mais on connaît ça tout le temps. Et on connaît ça avec nos petits cousins, nos petites cousines. Ah, ils sont pas bons, ils sont pas bons. Tout d'un coup, il y a une rencontre. Ah, c'est incroyable, ils font une carte. Donc, bien sûr que ça existe.
Vous essayez de faire bouger les DRH, le secteur des ressources humaines. Il y a une enquête de la NDRH qui est sortie cette semaine qui dit que quand ils réfléchissent à leur métier de demain, le premier sujet qu'ils ont, c'est qu'ils veulent devenir conseillers en management. Ils veulent aider au quotidien les managers à comprendre leurs équipes. C'est possible, ça, de transformer ce métier complètement en conseil en management?
En plus, avec la crise, ce que vous venez de dire a encore plus de sens. Pour moi, il y a une translation. C'est-à-dire que finalement, les managers sont un peu les nouveaux RH. ce sont eux qui connaissent le mieux leurs équipes, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qui bouger, comment individualiser justement le travail sans créer des divas, mais en gardant un collectif. Et les RH devraient être tout au service des managers. Pourquoi ? Parce que le manager qu'on vient de décrire, qui ?
Il est perdu.
Mais en plus, mais personne n'a été formé pour ça, parce que les managers, ils étaient formés parce qu'ils étaient performants. Pas du tout parce qu'ils avaient ces compétences. Donc, qui va les aider, ces managers ? Mais plus drôle que ça, qui va aider les RH à aider ces managers ? Donc, il y a tout un ensemble d'offres à repenser, parce qu'il y a toute une transhumance, une translation des jobs. Et les RH, aujourd'hui, avec toute la crise sanitaire et réglementaire qu'on connaît, souvent font un peu office de CEO aussi. C'est assez amusant.
Vous allez avoir le droit exactement au même quiz que tout le monde. Hein. Vous me dites stop ou encore. Rapidement, est-ce qu'on continue les reportings ?
Stop, de la façon dont c'est fait.
Est-ce qu'on continue les horaires ?
Super stop, puisque les horaires, les vôtres ne sont pas les miens. Par contre, il faut trouver des horaires communs où on va générer du travail collaboratif. Mais sur les temps individuels, on peut oublier les horaires.
Les tests de personnalité, stop ou encore ?
Pourquoi faire ? Si c'est pour donner une chance à quelqu'un qui ne passerait pas le radar autrement, mais dont on sent qu'il a un potentiel, 100%. Si c'est parce qu'il ne rentre pas dans les cases de la culture qui est très normative, voire tyrannique, absolument pas question.
Les CV ?
Moi, j'aime pas qu'on me raconte la fin d'un film avant d'aller le voir. Donc, je préfère voir les gens. Et qu'on est plutôt aujourd'hui, il y a 1000 moyens d'avoir un profil qui tombe sous nos yeux, autre que le CV.
C'est LinkedIn, quoi, l'autre moyen.
Non, c'est le storytelling, c'est les commentaires que vous mettez toute la journée sur LinkedIn, c'est les communautés auxquelles vous appartenez, c'est toute votre communication aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, c'est dégueulasse pour les gens qui ne sont pas sur les médias sociaux, ok.
Mais il faut y aller. Mais y a... Les gens qui n'y sont pas.
Ça va être compliqué quand même.
Surtout chez les cadres, il faut absolument y aller. Les Zoom et les Teams.
Je pense que c'est aujourd'hui un outil indispensable parce qu'on ne reviendra pas en arrière, mais ce n'est pas non plus la panacée au sens où on ne peut pas essayer de numériser tout ce que l'on faisait avant. Ça doit être là aussi des outils de transformation pour aider à faire autrement, mais pas forcément remplacer ce qu'on faisait.
Les Chief Happiness Officer, vous en avez ou pas chez Talentsoft ?
J'ai toujours été archi contre, simplement parce que je crois au bien-être au travail et que l'employeur que je suis contribue au bien-être des gens, mais le bonheur... Si vos enfants ont eu le bac ou si vous venez de divorcer, vous serez heureux ou malheureux et ça dépendra pas de moi.
Les baby-foot ?
Les baby-foot, oui. Si on n'érige pas ça en alpha et en oméga du travail et de la cool attitude, c'est un outil de plus parmi d'autres. S'il a du sens par rapport à votre population et au bon endroit et pas une cafette dans un immeuble dégueulasse avec tout le monde qui s'en fout.
On va parler formation dans la partie juste après. 85% des jobs de 2030 n'existent pas aujourd'hui. C'est quoi la compétence clé sur laquelle il faut se former ?
Je pense que c'est ce que Nicolas Taïeb appellerait l'antifragilité, c'est-à-dire être capable de s'adapter à toutes les situations, gérer l'incertitude, savoir prendre des risques, puisque, comme on le sait, la seule chose qui ne changera pas maintenant, c'est un changement régulier, continu et assez fort. Adaptabilité.
Vous répondez aux messages sur LinkedIn quand on vous en envoie ?
Toujours, même pour dire « désolé, je ne peux pas », mais je ne laisse pas de message vide.
Merci beaucoup Alexandre Pachulski d'avoir été avec nous, cofondateur de Talentsoft. Et nous, on va parler formation dans la prochaine partie. Il faut absolument se former et apprendre à se former. A tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on va parler formation avec Yannick Petit. Bonjour.
Bonjour.
CEO de Youno. Est-ce que je le dis bien ?
Vous le dites parfaitement.
UNOW, organisme spécialisé dans la formation à distance. L'offre explose dans la formation, la demande aussi, c'est grâce au confinement.
Ouais. Alors le confinement a joué un rôle, mais là c'est encore en train de s'accélérer. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, les entreprises ont voulu beaucoup former. C'était un moyen d'abord d'engager un lien avec les collaborateurs, de miser sur eux, y compris quand l'activité était réduite et qu'il y avait de l'activité partielle. Et c'était aussi un moyen de préparer la reprise. Donc beaucoup d'entreprises, 75% des entreprises avec qui nous travaillons, ont tenu à laisser des actions de formation pendant cette période-là.
Et puis même commencer, il n'y a pas eu que des continuités de formation. Grâce à une évolution sur le financement, il y a eu une explosion totale de l'offre.
Ouais, tout à fait. Il y a eu effectivement des financements pour faciliter l'accès aux personnes en activité partielle. Donc là, on parle essentiellement de
dispositifs. Quasiment gratuit quand même. Hein.
Exactement, c'est-à-dire que tous les coûts pédagogiques de la formation étaient pris en charge par l'État. pour former les personnes qui étaient au chômage partiel. Et c'était un moyen pour l'État de dire former plutôt que licencier. Et ça a bien marché. Beaucoup d'entreprises qui ont connu une situation très difficile économiquement ont fait ça. Nous, on a travaillé par exemple avec Disneyland ou encore avec Zadig et Voltaire pour accompagner leurs managers et leurs collaborateurs sur de la formation sur les soft skills. Donc effectivement, beaucoup d'entreprises ont profité de cette période de confinement et d'activité partielle pour former le plus possible les collaborateurs et les préparer au monde d'après.
Donc ça, c'est la grande mode. On se forme plus à un tableau Excel ou à les hard skills, les compétences dures, c'est-à-dire vraiment ce que vous mettez en ligne sur votre CV, mais aux compétences comportementales. C'est quoi les 5 compétences clés pour la fin 2020 et début 2021?
Alors, c'était l'objet d'un sondage qu'on a fait juste après le confinement. En juin, on s'est vraiment demandé quels sont les impacts durables de la crise sur les plans de formation dans les entreprises. Et en particulier, quelles sont les compétences demain qui sont critiques aux yeux des professionnels de la formation. Et donc, ce qui ressort, c'est que les soft skills, effectivement, deviennent de plus en plus centrales dans le mix de formation des entreprises. Et à l'intérieur de ça, on va trouver des compétences comme la créativité, comme la communication impactante, comment convaincre une personne et son interlocuteur quand on lui parle, mais également d'autres compétences douces qu'on connaissait déjà d'avant, la gestion du stress, la confiance en soi ou encore la prise de parole en public. Ces compétences-là, qui sont vraiment spécifiquement humaines, c'est-à-dire qu'elles ne seront jamais automatisables.
Oui, mais comment ça se développe? Parce que tous les DRH qu'on reçoit, c'est ce que nous disait Alexandre Pachulski il y a un instant, ils cherchent des gens qui ne paniquent pas, qui ont une super agilité. On est quand même un peu né comme ça.
Non, on n'est pas comme ça. Toutes les personnes peuvent le développer. Ça, c'est vraiment une idée. Alors nous, chez Youno, sur laquelle on se bat contre cette idée pour vraiment dire à chacun qu'il est possible de développer ses compétences. Comment? Avec le bon accompagnement, ça passe par de la formation. Mais cette formation-là, elle doit réellement être mise en pratique dans le quotidien du collaborateur. Il doit aussi avoir l'environnement de travail propice à développer ses compétences. Mais pour vous donner un exemple, la gestion du stress, tout le monde est capable naturellement de connaître ses réactions face au stress et puis de déclencher des mécanismes qui vont permettre d'y faire face. C'est vraiment quelque chose qui peut se développer chez tout le monde. Maintenant, de nouveau, il faut être bien accompagné et puis également être formé sur le long cours pour développer cette compétence.
Donc ça veut dire exercice en live avec un coach qui vous reprend, qui vous étudie.
C'est exactement ça. Donc chez Youno,
nous, ça à travers un écran, j'imagine.
Alors à travers un écran, nous chez Youno, on est vraiment spécialiste de la formation à distance. Donc c'est des programmes structurés. Donc par exemple sur la gestion du stress, même si on a une 50aine de formations disponibles. Et à l'intérieur, ça va être un parcours avec des ressources pédagogiques qui seront assez variées, des vidéos, des infographies, des podcasts. Puis on passe sur de la mise en pratique. Et là, c'est vraiment le cœur de la pédagogie. Donc, par exemple, sur la gestion du stress, comment on apprend à des collaborateurs à se calmer quand ils sont dans des situations où ils peuvent effectivement paniquer. Et puis, le troisième morceau de la pédagogie Youno, c'est l'accompagnement d'un expert formateur à distance qui vient dans des visioconférences ou encore par téléphone accompagner chaque participant pour l'aider dans les difficultés qu'il peut rencontrer et le faire réussir dans la formation.
Donc les 3 compétences qui montent, 1, résoudre des problèmes complexes, 2, argumenter pour convaincre, et 3, la créativité.
C'est ça.
Comment on travaille sa créativité?
Alors, on la travaille d'abord...
C'est des exercices de peinture?
Alors, on peut. La peinture et puis les arts en général peuvent être une excellente manière de développer la créativité. Chez Youno, là aussi, on a vraiment pensé à un parcours qui permet d'avoir à la fois les bases théoriques de compréhension de ce qu'est la créativité. Sur ce sujet en particulier, on a pas mal de choses à déminer parce qu'il y a des idées reçues. Vous savez, on est créatif ou on n'est pas créatif. Et c'est pas vrai. Il y a vraiment des rituels, des manières de travailler, notamment en équipe, qui permettent d'entraîner ce muscle de la créativité. Et donc, une bonne formation qui est suffisamment mise en pratique et centrée sur les activités concrètes à faire dans le travail va permettre de développer ce muscle. Et ce muscle-là, il vaut mieux le développer à plusieurs.
Sur les compétences incontournables, on a aussi animé des réunions à distance, développer son leadership, apprendre à distance, communiquer à l'oral à distance, communiquer à l'écrit à distance. Il n'y a plus que des choses à distance.
Et oui, parce que là, les entreprises sont en train de vivre un changement qui est assez brutal dans le mode d'organisation. Des entreprises comme Orange ou PSA ont annoncé que demain, 3 ou 4 jours sur 5 seraient télétravaillés pour toutes les fonctions de l'entreprise qui sont compatibles avec le télétravail.
Oui, nous on attend de voir Happy Boulot ce que ça va donner.
Alors on verra chez Happy Boulot ce que ça donne, mais vous imaginez le séisme dans ces grandes organisations qui historiquement étaient vraiment centrées sur le travail présentiel. Résultat, les équipes, on doit les accompagner pour finalement actualiser certaines compétences qui étaient déjà maîtrisées avant. Maintenant, effectivement, tout ça se passe derrière un écran. Et vous preniez quelques exemples, effectivement, qui sont ressortis dans la grande enquête nationale qu'on a réalisée en juin. Mais par exemple, comment faire preuve de leadership à distance quand on a une équipe qu'il faut entraîner, qu'il faut motiver? Comment faire, en fait? Quelles sont les techniques et qu'est-ce qui change par rapport à...
Il ne faut pas envoyer des mails avec des points d'exclamation. C'est un petit peu plus complexe que
Alors, il faut éviter, mais là aussi, ça se travaille. Et puis surtout, il n'y a pas une seule manière. Il y a des manières assez personnelles de le développer. Maintenant, là, il y a vraiment un sujet de fond. On va entrer dans des années où le travail va basculer assez rapidement dans le télétravail. Il faut actualiser les compétences dans ce nouvel environnement.
Voilà, on peut se former à tout et même à devenir jaune. Vous savez ce que c'est de devenir jaune?
Alors, devenir jaune, oui, c'est
un des... La couleur jaune, quand vous êtes créatif, qu'on vous a fait passer un entretien de personnalité et qu'on vous met dans la case rouge, jaune, vert ou bleu, ça va être notre sujet juste après les tests de personnalité. Merci Yannick Petit, CEO de YouKnow, d'avoir été avec nous. Et nous, on va parler de couleurs dans un instant.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business case.
Et on va parler des tests de personnalité. Bonjour David Bernard.
Bonjour.
Co-fondateur d'Assess First. Alors vous êtes plutôt rouge, bleu, jaune, vert?
Moi je serais plutôt rouge-jaune.
Ah ouais, alors moi aussi je suis rouge-jaune. Alors peut-être qu'on va devoir se battre. Hein.
Alors on va
voir. Peut travailler ensemble si on est rouge-jaune.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est ces tests-là qui évaluent au travers des couleurs.
Les tests des couleurs, ouais.
Ouais, c'est pas vraiment ce qu'on va utiliser en recrutement. Ça, c'est très utilisé dans le cadre du développement personnel. Mais lorsqu'on s'intéresse à la prédiction de la réussite au travail, on va plutôt utiliser des tests qui évaluent toute une gamme de critères.
Alors quand je suis face à un test de personnalité, quand l'entreprise me dit, jeudi, tu vas avoir 2 heures pour faire un test, est-ce que je me prépare? Est-ce que j'arrive sans aucun élément, puisque c'est ma personnalité, je fais quoi?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est complètement différent des tests, ce qu'on appelle les tests d'aptitude, où on va évaluer tout ce qui est plutôt intellectuel, cognitif. La personnalité, nous, le conseil qu'on va donner, c'est vraiment plutôt d'être naturel. Pour une raison simple, c'est que si jamais je montre qui je suis, en fait, que j'arrive à mettre en évidence quels sont mes talents, mes points forts, tout en restant dans mon naturel, j'aurai beaucoup plus de probabilités, au final, de me retrouver dans un job qui me ressemble.
Mais est-ce que je peux biaiser le test de personnalité à travers les questions? Est-ce que je peux réussir à sentir vers où je dois aller?
Alors, on peut essayer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les tests ont énormément évolué depuis une vingtaine d'années et qu'aujourd'hui, on intègre en fait des indicateurs qui permettent de valider, par exemple, la spontanéité des répondants. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement enregistrer les réponses qu'une personne va donner, mais également la façon dont elle va se comporter tout au long du test. Ce qui fait que si
on cherche... C'est quoi? C'est le temps?
Ça peut s'évaluer au travers de différents critères. On a ce qu'on appelle une échelle de désirabilité sociale, c'est-à-dire la tendance à se présenter sous un jour favorable. Et également, on va évaluer justement les temps de passation, comment est-ce que la personne réagit, est-ce qu'elle revient en arrière, est-ce qu'elle revient sur ses réponses, ce genre de choses.
Voilà. Mais est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou se dire, mais non, en fait, c'est fait pour avoir une meilleure adéquation avec le poste?
En fait, moi, vraiment, le conseil que je donne toujours, c'est de pas s'inquiéter, bien au contraire. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire que pourquoi un recruteur, il fait passer des tests? C'est justement pour avoir des informations supplémentaires, des informations objectives pour mieux comprendre qui est la personne. C'est-à-dire au-delà de son CV, de son profil LinkedIn, des expériences qu'elle a eues, encore des écoles par lesquelles elle est passée. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer davantage de qui l'on est en vue, justement, d'avoir une meilleure adéquation avec les jobs pour lesquels on va postuler.
Et vous avez eu des erreurs?
Alors aujourd'hui, c'est pas une boule de cristal, très clairement, mais aujourd'hui, on a un taux de fiabilité qui varie entre 85 et 90%. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un entretien de recrutement, il y a énormément de biais qui vont jouer. Donc si à un moment donné, le recruteur ne se donne pas les moyens de se doter d'indicateurs qui sont objectifs, il va faire avec quoi? Il va faire avec sa représentation. Et si jamais, à un moment donné, je sais pas moi, si j'aime pas les personnes qui ont une cravate de telle couleur ou qui mettent ce type
de chaussettes... Mais c'est-à-dire que vous travaillez avec le recruteur la manière dont le test est rédigé?
Alors, le test, c'est toujours le même. En fait, ce qui va changer, c'est ce qu'on appelle c'est le profil recherché, ce qu'on appelle un modèle prédictif. Et ça, en fait, le recruteur, il va pouvoir le définir, par exemple, en évaluant, par exemple, il a 10 commerciaux chez lui, il peut évaluer les 10 commerciaux, ensuite, il va définir quels sont ceux qui réussissent, qui réussissent moins, et automatiquement, on a un système d'intelligence artificielle qui va définir les critères qui sont réellement associés à la réussite et pas simplement ceux que j'imagine être liés à la réussite.
Mais ça vous arrive de dire à des recruteurs, là, votre grille d'analyse, elle n'est pas bonne? Vous plantez? Alors,
j'ai pas envie de dire régulièrement, ça serait peut-être pas correct, mais ouais, si, ça arrive assez régulièrement.
C'est quoi la typologie d'entreprise qui vous commande des tests? C'est toute la tech ou c'est vraiment hyper varié?
Non, c'est hyper varié. En fait, on bosse avec des entreprises de la tech, bien sûr, mais aujourd'hui, on a 3500 clients dans 40 pays différents, c'est vraiment tout secteur d'activité. En gros, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'à chaque fois que le facteur humain peut impacter sur la réussite ou l'engagement des personnes dans leur travail, ça fait du sens, en fait, d'évaluer qui ces personnes sont.
Il y a toujours les tests de logique et de mathématiques.
Ouais, alors maintenant il y a des versions un peu plus gamifiées parce que les tests où on a l'impression de se retrouver à l'école, de répondre à des, ouais, ça c'est,
enfin,
c'est,
je vais bah, pas ça dire élimine que c'est un fini. Certain nombre de candidats.
Ouais, exactement.
Moi, par exemple. Voilà.
Aujourd'hui donc c'est plus basé sur les stratégies de, enfin sur les mêmes standards que ceux qu'on utilise dans le gaming pour justement favoriser l'appropriation par les candidats et faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre.
N'ayez pas peur des tests de personnalité, ils sont là pour vous aider, un peu comme l'intelligence artificielle finalement dans la première partie. Merci beaucoup David Bernard, cofondateur d'Assess First. C'est fini pour aujourd'hui. Happy Boulot le Mag, on revient la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bon week-end sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.